France Inter.
18:18 sur l'horloge de France Inter. Soyez les bienvenus.
France Inter. Le 18:20, Éric Delvaux.
Une semaine en France est consacrée ce soir au phénomène des comédie-clubs qui se multiplient un peu partout sur le territoire depuis quelques années, dans les grandes villes comme dans les communes les plus reculées. Comment expliquer cet engouement qui va de pair d'ailleurs avec le succès des vidéos de jeunes humoristes sur les réseaux sociaux? Y aurait-il un besoin de rire tout particulier dans ce contexte d'actualité anxiogène? Qui sont les spectateurs des comédie-clubs et autres spectacles de stand-up? On en parlera ce soir avec nos invités et puis nous irons en reportage à Lille. Guy Vanctil s'est rendu au Tchatcher Comedy Club. Reportage à suivre. Et bonsoir Yael Gauze.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Comme chaque vendredi, il y aura votre prisme politique, l'humour en politique. Eh bien, on verra que ça existe de longue date.
Oui Eric, et qui a dit « Si vous pensez qu'il faut être un playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples. » Édouard Philippe et l'autodérision sur son alopécie, prix de l'humour politique 2023, et qui n'hésite pas, comme d'autres figures politiques, vous verrez, à flirter avec le stand-up dans ses meetings, à condition de savoir doser.
L'autodérision très importante, on va le voir dans le stand-up. À tout à l'heure, Yael. Le succès des comedy clubs, c'est le thème d'une semaine en France. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h.
Éric Delvaux, le 18-20.
Avec un premier invité parmi ceux qui organisent ces comédie clubs, jusque dans les zones rurales. Bonsoir Alet Selmi.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Vous êtes le patron du Bar et Vous, hein, en trois mots, Bar
c'est et bar
Vous.
Et vous. Ouais. C'est le Bar et Vous Comedy Club.
dans le village de Saint-Denis-le-Gaz, 500 habitants dans la Manche, en Normandie. Donc, vous avez monté il y a 3 ans ce Bar et Vous Comedy Club, café, théâtre, comédie show, épicerie, 80 places assises. Quel est le concept, précisément?
Alors, le concept est parti d'un pari fou, déjà, de redynamiser un petit peu la ruralité. Mmh. Et pourquoi Saint-Denis-le-Gaz? Parce que, bah, il se passe rien. Il y a beaucoup de calme là-bas, vraiment beaucoup de calme. Et on s'est dit, tiens, on va foutre le bordel un petit peu là-bas, on va faire rire les gens, et puis on va faire revivre surtout une commune et une tranche de Français qui sont, que je trouve qui sont un peu isolés de ce phénomène. Donc il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui viennent là-bas ou dans la Manche ou en Normandie, il y a très peu d'humoristes. Donc c'est une zone aussi très difficile à faire rire. Mmh. Donc,
un public plus difficile, vous pensez qu'en ville
elle est pas plus difficile, elle est pas vraiment plus difficile, mais on n'a pas pris le temps d'aller le chercher, ce public-là. Mmh. Et puis, contrairement à ce qu'on pense, il se passe tellement de choses, il y a tellement de vie dans les campagnes, que vraiment, je pense que cette touche à Saint-Denis-le-Gaz, que c'est une commune, comme vous l'avez cité, de 500 habitants, m'a donné déjà une chance d'ouvrir là-bas. C'était un pari, et bah, tout le monde autour de moi me disait mais t'es fou, mais qu'est-ce que t'es en train de faire?
Parce que vous avez essayé précédemment dans la ville, un peu à côté, à Granville?
Je voulais à la base ouvrir ça à Granville. Après, avec ma compagne, on s'est dit, tout d'abord, les élus locaux n'étaient pas très favorables au sujet de Comedy Club, et puis ils ignoraient un petit peu. Moi, quand j'ai parlé à mon maire, je lui ai dit du stand-up, il m'a dit, bon, explique-moi ça en français.
Ah oui. Et le stand-up, aujourd'hui, ça représente l'essentiel des artistes qui se présentent chez vous, hein.
Exactement, ça représente 80% des artistes qui viennent chez moi. Après, il y a aussi de la musique, il y a des expositions. Il y a une salle dédiée aux exposants et aux artistes, d'artistes peintres, les sculpteurs et autres, gratuitement bien sûr, pour montrer, pour un petit peu donner un petit peu de vie aussi autour de ça. Il y a des écrivains aussi.
Et comment vous choisissez les humoristes, les stand-uppers, hommes ou femmes, qui se produisent chez vous? Alors, vous les choisissez, vous les recrutez comment?
Je fais très régulièrement des allers-retours sur Paris. Je passe la moitié de ma semaine sur Paris, sur Lille, sur Bordeaux, sur Marseille. Je fais presque le tour de la France pour détecter un petit peu et regarder les nouveaux talents, ainsi que convaincre aussi des humoristes aussi qui sont réputés ou des humoristes qui ont déjà un nom à venir en toute simplicité. J'ai rien à vendre, je leur dis voilà le concept, voilà comment ça se passe. Il y a beaucoup d'humoristes qui ont joué le jeu. Ils sont venus juste pour le délire, donc pour voir. Il y a des humoristes qui sont venus tout à l'heure en air, ils sont venus sans prendre de cachet, ils ont dit voilà, on va juste donner un coup de main.
Parce qu'un cachet chez vous, c'est combien en moyenne ?
C'est un cachet en moyenne, il peut aller de 15, 20, 20 euros jusqu'à 3000 euros. Vous savez, ça va très très vite.
Ah oui.
Donc moi, j'ai pas ces moyens-là. Donc honnêtement.
Il y a le chapeau qui tourne peut-être ?
Je fais pas chapeau, c'est par respect au métier. Parce que j'estime aussi que c'est des gens qui travaillent, qu'ils ont pris de leur temps, leur week-end. Et moi, je suis vraiment très très loin. Ça veut dire quand on vient dans la Manche, on vient pas pour 2-3 heures. Donc ils ont pris largement le temps. Donc c'est juste par respect à leur métier que je fais pas de chapeau.
À quoi reconnaissez-vous un bon stand-upper ?
Un bon stand-upper ? Alors l'humour aujourd'hui, c'est de l'humour écrit et du stand-up aussi et des punchlines très faciles et très fines qui sortent seules. Donc un bon stand-upper, c'est lui qui sait tout de suite se fondre dans son public sans faire sentir ce décalage. Je suis humoriste, vous êtes le spectacle. Excusez-moi pour le... Fermez vos gueules, c'est mon spectacle. Donc un bon stand-upper, il va rentrer vraiment dans le public et il va être l'un d'eux. Et il sera aussi spectateur de son propre spectacle, comme ils le font très bien.
Et parlez-nous du public aussi. D'où vient-il ce public qui vient vous voir dans la Manche ?
Écoutez, le public, il vient...
À Saint-Denis-le-Gas.
Tout autour de Saint-Denis-le-Gas. Ils font des 30-40 km sur des routes cabossées pour venir rire et venir partager ces moments-là. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que le projet tient. Difficilement, mais tiens.
Difficilement, c'est dur tout de même financièrement.
Bien sûr, c'est dur tous les jours. Après, c'est un projet personnel, c'est un projet fait avec cœur, fait pour le partage et non pas pour avoir un buzz ou autre. Donc le public, c'est un public rural, majoritairement rural. Donc ils viennent des campagnes d'à côté. C'est l'agriculteur du coin qui va venir avec ses bottes. C'est le médecin rural aussi qui va venir avec sa petite famille. C'est des gamins, c'est un peu tout. Aujourd'hui, on commence à voir des gens qui viennent de Nantes, de Cherbourg, de Rennes, de Paris aussi.
On vient de loin pour voir vos spectacles. Merci beaucoup de ce témoignage, Khaled Selmi. On ira donc voir vos artistes au Bar et vous, Comedy Show à Saint-Denis-le-Gas, dans la Manche, entre Coutances et Villedieu-les-Poêles.
Exactement,
pas loin,
entre Coutances et Grandville.
Et bon succès pour votre entreprise.
Merci beaucoup.
L'engouement pour les Comedy Clubs, on en parle ce soir. Autre illustration, nous partons à Lille, au Tchatcher Comedy Club. Cette scène existe depuis 2017, ouvert 4 jours par semaine. Guy Van Til s'est rendu ce mardi en pleine semaine, donc 12 personnes seulement dans la salle. Reportage.
Hey, bonsoir, l'espace Comedy, faites un maximum de bruit, est-ce que ça va ? Alors les amis, c'est moi ou il y a un décalage horaire entre l'annonce et le public ? Allez, faites du bruit un petit peu comme il se doit. On y va, la foule porte la foule.
Donc moi c'est Cédric, étudiant en master.
Bonjour, moi c'est Marie, je suis en master en commerce international.
Delphine.
Maxime.
Et on a une boulangerie-pâtisserie sur Dunkerque.
Margot.
Kylian. Moi je suis pompier à la sécurité civile.
On vient du côté de Douai.
Christine, je suis infirmière.
Et moi c'est Périne, moi j'ai 37 ans, je suis aussi infirmière.
Donc je suis Karine et je suis chargée des ressources humaines.
Alors qu'est-ce que vous faites ce soir ici au Tchatcher Comedy Club ?
Déjà je suis dans le déplacement professionnel et j'ai toujours voulu assister à un Comedy Club. Donc j'ai regardé à midi sur internet, j'ai vu qu'il y en avait, donc me voilà.
Dans un cadre totalement nouveau, parce que je connais même pas non plus ce bar.
Voilà, vous retrouvez dans un bar avec un cocktail à la main. Il est 19h30.
C'est parfait, ça me va bien.
Ce soir on vient rigoler.
J'espère. Ça permet de s'évader des soucis du quotidien.
C'est quoi ?
Tous les mêmes petits tracas de la vie, rapporter de l'argent, la santé, la maladie, le stress au travail, tout. Tout est stressant, on allume la télé, c'est stressant, on écoute les gens, c'est stressant. Donc s'il y a de plus en plus de concepts comedy club, tant mieux et c'est bien de pouvoir venir s'évader.
Tchatcher Comedy Club.
Tchatcher Comedy Club.
Comedy Club.
Ouais. Vous avez déjà fait des Comedy Club ou
pas ? Non, c'est la première fois.
Ah ouais, jamais,
c'est pour ça. On voit partout sur les réseaux sociaux et tout. On se dit qu'on va tester.
On va essayer.
pour le faire en vrai.
Bah oui, ça change les idées, ça détend après le travail.
Vous faites quoi comme boulot ?
Je suis infirmière.
Donc vous allez chez les gens ?
C'est ça, tout à fait. C'est pas facile tous les jours, c'est pour ça qu'on vient ici décompresser.
Ouais, et puis boire une bière aussi.
Je vous laisse, ça y est, ça va bientôt commencer. Merci.
19h30, on descend.
Ça va, chef ?
Ça va très bien, merci.
Bah, Cassie, je suis un petit peu la star du stand-up ici à Lille. Wow, voilà. Ici, ça joue tous les jours. Lille, ça commence à devenir une vraie scène de stand-up. Il y a plein d'artistes maintenant qui émergent. Dans chaque région, il y a une star et il y a un mec qui ressort.
Et en toute modestie, c'est...
Moi, ici à Lille, c'est moi. Souvent, quand tu demandes aux humoristes qui ressort le plus du lot ici à Lille, c'est mon nom qui arrive en premier. Voilà. Je crois qu'il y a des gens qui vont prendre au premier degré.
Grave.
Cassie, le Kanye West du stand-up.
Bonsoir.
Ici, bon, tu vois que l'élite des humoristes à Lille.
Il y a qui alors ?
Bah, parmi l'élite, on a Yanis, viens, parce qu'on parle de l'élite du stand-up.
Oh.
À 17 ans, il est très très drôle.
En tout cas, j'essaye de faire ce qui me fait kiffer. J'écris sur les sujets qui me tiennent à cœur. L'idée, c'est...
Jure, tu retires ta blague homophobe, ça je l'avais déjà dit.
Alors tiens à rappeler que j'ai un sketch de 10 minutes dans lequel je combats l'homophobie. Et c'est important pour moi, pareil, c'est des sujets qui me tiennent à cœur, donc j'en parle, j'essaie de faire rire autour de ça.
Et t'as 17 ans ?
J'ai 17 ans, exactement.
T'es encore lycéen ?
Ouais, je passe le bac là dans 2 semaines.
Et tu trouves le temps de venir ce soir te présenter ?
Ouais, bah écoute, là ça fait... Depuis que je suis en 3ème, je fais ça, depuis que j'ai 14 ans. Donc je fais ça en parallèle de mes études. Et pour l'instant, bah je joue tous les soirs, j'ai mon spectacle de 30 minutes là. Je kiffe, on va voir où ça mène, mais l'idée c'est de faire ça toute ma vie encore. Pour l'instant, j'arrive à faire
17 ans, le mec il vient faire des blagues dans des caves. Il y a beaucoup d'humoristes qui ont été mis en examen à cause de lui.
J'ai détruit des carrières. Mais...
Bon, et là, c'est quoi le programme là ? Ça va
commencer. C'est le programme, c'est que normalement on va lancer la soirée. Ouais. Je vais lancer, c'est Yanis qui fera la présentation.
On prend un petit verre d'eau et on lance.
Ferme le rideau.
C'est marrant parce qu'on arrive dans une salle, c'est tout noir.
Un peu lissé comme ça.
C'est une cave voûtée.
Moi, je suis de la région lyonnaise et moi, je suis de Metz. Moi, je le fais sur d'autres formations comme ça. Je vais à chaque fois dans les petits stand-up, j'aime bien. Donc, et puis, elle a voulu se joindre à moi, donc allez hop. Elle m'a embarquée. Alors, moi, j'adore les stand-up, mais sur Lille, je connais pas. À Lyon, on en a énormément. L'occasion.
C'est ça, en fait, c'est que maintenant, il y en a partout.
Ouais, il y a plein de profils différents quand on a des stand-up. Des jeunes, des reconversions professionnelles, il y a tout. J'ai vu un stand-up sur Lyon il n'y a pas très longtemps. C'était une ancienne cadre informatique. Mais c'était à mourir de rire, parce qu'en plus, dans la salle, vous aviez beaucoup de cadres moyens, cadres sup, mais c'était leur quotidien qu'elle décrivait, avec beaucoup d'humour, mais c'était vraiment hyper parlant. Le rire, c'est communicatif, en plus, quand il y en a un qui commence à rire, voilà, ça part... Il y a des thérapies par le rire, justement, pour aller mieux. Donc voilà, on vient pour faire un petit coup de thérapie, ça fera du bien. Demain, on sera motivé pour retourner en formation. De toute façon, c'est pas pour rien que ça fonctionne, je parle du stand-up. Qu'il y a tant de propositions et qu'il y en a toujours encore et encore. C'est parce que les gens sont en recherche de ça, hein. Clairement. Là, ce soir, on va vers l'inconnu, en fait. On sait pas qui c'est qui va venir, on sait pas son humour, sa façon d'être. Donc là, c'est vraiment la découverte.
Oui, c'est ça, et c'est l'interaction avec le public. C'est vraiment jouer avec le public aussi, ça j'adore, c'est l'imprévu, effectivement.
Ça veut dire que vous avez risqué de participer ce soir ?
Non, si on est au fond, ça va aller.
Faut se planquer au fond si on veut pas être alpagué par le stand-upper.
C'est ça.
Bienvenue à l'Espace Comédie, c'est l'élite des comédies club ici à Lille. Pas de débutants, que des humoristes professionnels, minutieusement castés pour vous régaler. Et pour le moment, je vais demander, comme d'habitude, de faire un maximum de bruit pour l'humoriste qui va présenter la soirée d'un pour Mister Yanis Rio.
Voilà donc pour ce reportage de Guy Van Ctil parmi les humoristes et le public du Tchatcher Comedy Club. C'est à Lille. Je reviens dans la Manche avec vous, Khaled Selmi, le patron du Bar et Vous Comedy Club. Il y a un festival qui débute demain, ça s'appelle oui. Tout un foin, parce qu'il y aura beaucoup de foin, j'imagine.
Oui, bah, c'est des bottes de foin, la base, oui.
C'est la base. C'est du 7 au 28 juin, donc à partir de demain jusqu'au 28 juin. Et c'est donc à Saint-Denis le gars, il fallait quand même le préciser. Nous sommes en ligne à présent avec une comédienne de stand-up, également scénariste, réalisatrice, productrice d'influence. Bonsoir, Swann Périsset.
Bonsoir.
Les auditeurs de France Inter vous ont entendu, ils vous connaissent, hein, notamment dans Zoom Zoom Zen l'après-midi. Vous êtes en tournée avec votre spectacle intitulé Calme. Je crois que c'est complet. Hein. Et vous étiez hier soir à Nancy. Vous serez à l'Olympia les 23 et 24 septembre prochains. Quel regard ?
Oui, il reste quelques places à l'Olympia quand même.
Alors l'Olympia, c'est pas complet. On peut y aller, c'est le 23 et le 24 voilà. Septembre. Hein. Vous portez quel regard sur les tremplins que sont ces comédie clubs qui se développent un peu partout en France ?
Bah, énormément de bienveillance et de curiosité. Ça m'arrive encore d'aller voir des comédie clubs et d'y jouer, même si quand on fait des spectacles d'une heure et demie, on peut perdre un peu la main, parce que c'est un exercice particulier quand même de faire rigoler en 3 minutes, en 5 minutes, puis 8 minutes. Mais c'est vraiment la salle d'entraînement des très peu sportifs que sont les humoristes. Mais c'est
salle d'entraînement, parce que ça développe aussi la confiance en soi, peut-être.
La confiance en soi, son personnage quand on tient le micro à la main, son rapport au public, sa voix, ça fatigue, hein, parce que les humoristes, la plupart du temps, ils vont jouer dans un comedy club à 19h, puis à 20h, puis à 21h, donc il faut vraiment le vouloir. On déchante très vite quand on est humoriste, on se croit en haut de l'affiche très vite, mais en fait, on met des années de comedy club à y arriver, entre guillemets. Et puis même les gens aujourd'hui qui font des spectacles complets, qui jouent à l'Olympia, ou même des gens qui ont des carrières bien plus spectaculaires que la mienne, retourne dans les comedy clubs en fait pour essayer, voilà, j'ai envie d'essayer de parler de ce sujet, de faire rigoler, de rebondir sur ça, est-ce que j'arrive encore à traiter tel sujet que j'ai jamais abordé, donc les comedy clubs, c'est la phase.
Ouais, oui. Vous avez conquis d'abord les réseaux sociaux, récemment, vous avez, je sais pas si c'était le début vraiment les réseaux sociaux, mais enfin vous avez conquis ces réseaux, YouTube notamment. Les réseaux sont désormais le vivier de référence pour ceux qui cherchent des talents sur scène?
Alors, pas forcément, mais c'est vrai que moi, en réalité, j'ai commencé le stand-up il y a 12 ans, et donc personne ne me connaissait ni d'Ève ni d'Adam, donc je faisais partie de ces gens qui faisaient du stand-up dans les caves, seulement dans les comedy clubs, et puis en fait, ça m'a donné envie d'aller sur les réseaux. Finalement, j'ai fait que des réseaux et je suis revenue sur scène ensuite. Disons que ça aide à avoir de la notoriété, à exposer son travail, mais aujourd'hui, il y a des gens à Paris qui ne font que des comedy clubs et qui sont parmi les meilleurs humoristes de France parce qu'ils sont forts et qu'ils n'ont pas envie de s'étaler sur les réseaux, ils n'ont pas envie de développer toute une stratégie digitale et pourtant...
Et l'inverse est vrai d'ailleurs. Il y a des humoristes, paraît-il, qui ne veulent se montrer que sur les réseaux sociaux, sur les réseaux, les vidéos TikTok notamment. Ça peut être rentable d'ailleurs de lâcher des vidéos sur TikTok. Pardon ?
De faire que des vidéos sur les réseaux, c'est ça la question ?
Oui.
Alors bien sûr, ouais, c'est le principe d'un influenceur, hein, que ce soit sur
TikTok. Mais les influenceurs n'ont pas envie ensuite, pour certains, d'aller se confronter à la scène, ça existe ?
Ben, c'est un milieu, les réseaux, c'est un milieu avec des artistes foisonnants dans tous les sens. Donc il y a des gens qui vont faire des courts-métrages de comédie, des gens qui vont raconter des histoires de façon spontanée, etc. Et tout ça, c'est des métiers différents de la scène. Donc il y en a qui ont envie de se mettre à la scène comme l'avait fait Norman, fait des vidéos à l'époque. Et ça demande des années de travail ensuite sur scène, quoi, justement, de manier. Parce qu'on est sans montage, quoi. On est à nu devant des gens, c'est des métiers différents, puis t'as des gens à qui ça plaît pas du tout, quoi, d'apprendre un texte, d'aller se taper des publics de 50 personnes alors qu'on a des vidéos qui font des millions de vues sur les réseaux et qu'on peut quand même transmettre des messages. Donc ouais, disons que c'est des métiers complémentaires, mais qu'il faut avoir une envie folle de monter sur scène, parce que ça implique quand même un investissement physique et psychologique qui est immense.
On n'a plus le temps, mais je voulais quand même vous poser la question à propos des sujets qui fâchent, que vous affectionnez. Il y a toujours moins de filles que de garçons qui se produisent sur scène, en stand-up ?
Tout à fait. Bah, ça vient de la culture. On est habitué à rire aux blagues des hommes en tant que femme, et on voit moins souvent des femmes s'exposer dans l'espace public pour faire rigoler, mais c'est en train de changer et ça, c'est super.
Merci beaucoup de votre témoignage, Swann Périsset, en tournée donc avec votre spectacle intitulé Calme, et vous serez à l'Olympia, je le rappelle, les 23 et 24 septembre prochains. Bonne tournée et bonne soirée.
Merci. Bientôt.
Vous écoutez Une semaine en France, Juliette Gou à la réalisation, Lionel Thompson à la rédaction en chef. Merci à Aurore Mansip et à Ariane Salbi qui m'ont aidé à préparer ce 18-20. Voici le dernier Neil Young, c'est sur France Inter. Today again, like I've never seen you. Waiting around for the world to change. Standing in line, people everywhere. Parle aux arbres, Talking to the Trees, le dernier album de Neil Young, le choix de Djoubaka. Neil Young qui entame ses 60 ans de carrière et il sera en concert à Paris le 13 juillet.
France Inter, le 18-20.
La suite d'une semaine en France consacrée au Comedy Club qui germe un peu partout en France, y compris dans les communes les plus reculées. Ça doit sûrement correspondre à un besoin de rire. On va en parler à présent avec vous, Olivia Gazalet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, vous avez publié Le paradoxe du rire. Et si ce n'était pas toujours drôle, c'est le titre de ce livre paru aux éditions Segers. Chez les stand-uppers, l'humour repose souvent sur l'autodérision. Rire de soi, c'est la meilleure façon aujourd'hui de ne vexer personne.
Bah, disons que quand on avoue soi-même ses faiblesses, ses fragilités, éventuellement ses complexes, il y a une identification très forte avec le public, surtout dans le cadre du stand-up où c'est vraiment, il y a une proximité physique et émotionnelle très forte. Il y a ce lien intimiste qui se crée. Et quand une personne avoue ses faiblesses, elle peut plus facilement se permettre ensuite après d'attaquer, mais même aussi dans la vie courante. Si vous vous moquez de vous-même, ça désamorce un peu l'agressivité qu'il y a dans la moquerie envers autrui.
Feindre sa propre ignorance pour mieux dévoiler celle des autres, c'est un concept connu en philosophie. C'est un levier. C'est Socrate. C'est l'ironie socratique. Oui, c'est un levier qui a toujours existé dans l'histoire humaine, ça, en fait.
Oui, ben je pense que c'est universel. Et le fait de... En fait, la manière dont les humoristes l'abordent aujourd'hui dans le stand-up, c'est complètement nouveau. Cette proximité physique, et je pense aussi que ça correspond justement aussi au fait qu'on est tout le temps derrière nos écrans, donc on a une espèce de rapport médiatisé au réel à travers l'écran. Et là, on a un rapport immédiat, on pourrait presque toucher l'humoriste. Et donc, ça change aussi d'une part des écrans et d'autre part des grands spectacles où on voit l'humoriste de très loin, parfois même sur un écran de nouveau. Et donc, c'est ça aussi, je pense, qui fait le succès du stand-up.
Le paradoxe du rire, hein, pour reprendre le titre de votre livre. Paradoxe, parce que l'humour, c'est à la fois une arme et un bouclier. On peut, avec l'humour, fédérer comme on peut exclure.
Oui, c'est à la fois une arme d'inclusion, une arme de subversion, d'émancipation, qui nous... la subversion politique, par exemple la satire, ça nous libère, ça purge le ressentiment. On en a besoin, surtout en ce moment, de cette dérision envers les puissants, envers ce monde qui est complètement absurde, qui marche sur la tête. Donc si on n'avait pas l'humour pour prendre un peu de distance, ce serait tout simplement impossible à vivre.
La vocation du rire, aujourd'hui encore, peut-être, c'est de douter des certitudes, douter des croyances.
Oui, parce qu'en fait, le rire a un effet de subversion. Donc, en fait, il va subvertir les normes et les interdits. Quelles soient les normes du langage, les normes de social, les normes morales. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on chatouille une norme, qu'on la dérange, qu'on la bouleverse, eh bien, il y a un effet libérateur, il y a un effet d'exutoire. Donc, c'est ça qui est jouissif dans le rire.
Mais d'où me vient l'impression que dans le monde des réseaux sociaux devenus clivants, les jeunes humoristes n'osent pas toujours pousser le bouchon aussi loin que leurs aînés, notamment quand on aborde aujourd'hui les questions religieuses.
Ah, je ne suis pas certaine de ça, moi. Moi, on ne peut plus rien dire, c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai longuement travaillé. Et je crois au contraire qu'il y a une façon de le dire. Et typiquement, par exemple, moi, les accents, par exemple, ça ne me dérange pas. Quand Danny Boone fait le ch'ti ou Gad Elmaleh fait le marocain, ça ne me dérange pas parce qu'il y a de la bienveillance et ça suscite l'empathie.
Mais Michel Leeb l'a payé cher.
Mais parce que Michel Leeb, c'était pas que l'accent, c'était qu'il avait animalisé l'Africain avec des mimiques simiesques, on aurait dit un orang-outan. Il l'a bestialisé et c'est ça qui lui a été reproché. Quand vous n'attirez pas, quand c'est du sarcasme, donc ça invite à la dégradation, au mépris ou à la haine de la cible, ça c'est problématique. Mais quand c'est bienveillant et qu'au contraire ça attire la sympathie sur la personne ou la catégorie ciblée, ça n'a rien à voir.
Et quand on voit tous les comedy clubs qui se montent un peu partout, y compris dans les communes les plus rurales, on l'a vu tout à l'heure, y aurait-il aujourd'hui plus qu'hier un besoin de rire ?
Ben, je pense que aujourd'hui, c'est Philippe Geluck qui disait assez justement notre passé est sinistre, notre présent est invivable. Heureusement que nous n'avons pas d'avenir.
voilà. C'est un cynique qui parle.
Ouais, c'était un cynique qui parlait. C'est vrai que voilà, la période est vraiment, et on a envie. Là, je vais encore faire une citation, mais celle de Romain Gary, je l'aime beaucoup, quand il dit que l'humour est l'arme blanche des hommes désarmés. Nous le sommes plus que jamais, la guerre est à nos portes, la folie est ambiante. Donc voilà, heureusement qu'on a cette soupape pour prendre de la distance.
Olivier Gazelle, et vous restez avec nous, on a encore quelques questions à vous poser, le temps de me tourner vers Yaël Gauze pour son prisme politique. Comme chaque vendredi, on va voir avec vous, Yaël, qu'en politique aussi, donc, l'humour peut être redoutablement efficace.
Oui, et c'est vieux comme l'art oratoire, vous citiez Eric Socrate, mais Clémenceau, De Gaulle, Édouard Herriot et sa célèbre comparaison entre l'andouillette et la politique, hein, il faut que ça sente la merde, mais pas trop, tous aimaient faire un bon mot, mais c'est sans doute plus libéré encore aujourd'hui, plus décomplexé, sachant que depuis 1988, vous avez un prix qui est remis chaque année, le prix de l'humour politique, décerné par un jury de journalistes, et que depuis 2010, il y a même le prix de l'humour politique européen. L'humour a toute sa place dans les meetings, et certains, écoutez, savent mieux improviser que d'autres.
Pour conclure, mes amis, j'ai évoqué, ne le déplorez pas, parce que, vous savez, après Brigitte, je me dis que je suis toujours trop long.
Et parce que la France est une nation qui veut continuer à susciter de grands champions. Parce que la France est une nation, pardon, qui veut continuer à susciter des grands champions. On me dit que les amateurs de rugby ont parfois l'esprit mal placé. Je ne peux pas le croire.
Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que vous pensez ?
Non, ce n'est pas vrai. Il est le président des très riches.
Mr. President, I have a message for you. Unfortunately, you do not speak French. So, I must beg your pardon.
Dans l'ordre d'apparition, Emmanuel Macron, meeting à Bercy, avril 2017, puis Édouard Philippe, un pro après un lapsus difficile pour lancer le mondial de rugby, mars 2018, puis François Hollande dans Quotidien sur TMC, avril 2018, et enfin Jean-Luc Mélenchon, en anglais dans le texte, au mois d'avril, là, il s'adressait à Trump depuis Montréal, le leader LFI, qui est sans doute celui qui a le plus poussé les innovations en meeting, on pense aux hologrammes, ou aux meetings immersifs et olfactifs autour de la mer, à Nantes, en janvier 2022, et puisqu'on parle innovation, le micro-cravate est un vrai plus désormais. Il permet d'être libre sur la scène, d'occuper tout l'espace. Autre tribun et ennemi juré de Mélenchon, le numéro 1 du Parti communiste, Fabien Roussel. Il était sur le canapé de Karine Le Marchand dimanche dernier sur M6.
Oui, mais ne Mélenchon pas tout.
Ne Mélenchon pas tout.
Bravo.
Il l'a fait exprès. D'accord.
Je dis, on doit pouvoir faire de la politique avec bonne humeur et avec humour.
On peut aussi se faire passer pour quelqu'un de pas très sérieux.
Exactement. Des fois, je me retiens.
Yaël, Fabien Roussel est en train de nous dire que trop d'humour tue la politique.
Et oui, il faut s'auto-censurer, il faut apprendre à doser. Jean-Michel Ribes, l'ancien directeur du théâtre du Rond-Point, a bien connu ça avec un certain François Hollande, candidat socialiste en 2012.
François Hollande, qui est un ami que j'aimais beaucoup, à force de faire de l'humour, il y avait certains moments où il disait « il faut que j'arrête, ça décrédibilise tout ce que je dis ». Le second degré, c'est quelque chose qui se partage avec des gens qui ont le second degré. Et souvent, dans les discours politiques, faire du second degré, c'est dangereux parce que tous les Français n'ont pas. C'est un plus, mais à la fois, je dirais, les grands humoristes ne sont pas forcément des bons politiques, et les bons politiques ne sont pas toujours des grands humoristes.
Donc ne pas inverser les rôles, ne pas croire que la politique c'est du stand-up, importer des techniques pour savoir bouger sur scène, oui, mais sans artifice, sans en faire trop, pas comme ce meeting façon télévangéliste Fraternité de Ségolène Royal en 2008. Le producteur de spectacle Jean-Marc Dumonté a beaucoup coaché son ami Emmanuel Macron en 2016 et 2017. Il reste modeste, on ne change pas un politique et d'ailleurs il ne faut pas.
Vous vous rappelez de Ségolène, ça n'avait pas été une réussite, je crois. Elle avait été extrêmement raillée. Donc, il faut un tempérament pour ça. Penser que des politiques puissent être changées, métamorphosées parce qu'il y aurait une intervention d'un homme de théâtre ou d'un coach, c'est à mon sens un leurre et un fantasme.
À ceci près qu'il y a parfois des destins qui basculent, il y aurait tant à dire sur le Volodymyr Zelensky d'il y a 20-25 ans qui écumait avec sa bande des tournois de sketch dans toute la Russie, sorte de Splendid ou de Jamel Comedy Club version ukrainienne. Zelensky, passé du stand-up à la fonction suprême, chef de guerre, pour que son pays et nous avec restions debout, stand-up, face à Poutine.
Et merci Yael Gauze. Et j'ai encore en mémoire de jeunes reporters Jean-Marie Le Pen qui faisait partie des premiers à arpenter les scènes avec un micro-cravate, je crois, ou en tout cas il bougeait sur scène et c'était parmi les premiers hommes politiques et femmes politiques à le faire. Olivia Gazalet, je rappelle que vous êtes philosophe, que vous avez publié Le paradoxe du rire, si ce n'était pas toujours drôle, point d'interrogation. Vous dites qu'on admire les artistes, mais à propos des humoristes, vous dites qu'on les aime. Qu'entendez-vous par là ?
En fait, quand vous êtes drôle, vous avez immédiatement un capital sympathie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le rire, c'est une jouissance. C'est tout simplement, c'est orgasmique de rire. Hein. C'est aussi, ça libère les endorphines, de la sérotonine. Donc, en fait, les gens qui nous procurent ça, immédiatement, on a de la sympathie pour eux. Ça veut dire, continue à me faire rire. Ils nous font du bien. Donc, c'est presque chimique le lien qu'il y a avec la personne qui nous fait rire.
Vous participerez le 14 juin aux rencontres philosophiques de Monaco, une rencontre notamment avec Gad Elmaleh. Qu'attendez-vous de cette rencontre ?
Ben ça, je ne sais pas, en fait. C'est vraiment l'inconnu. Alors, justement, j'en profite pour dire qu'il a repris le cabaret
Michou,
de Michou.
Pour en faire un comédie-club.
Oui, et il en a ouvert un à Marseille qui s'appelle Le Vigs, où il a des micros ouverts, des line-up, des choses super. Et bah, lui, bah, typiquement, lui, il a un capital de sympathie extraordinaire. Et ça n'est jamais, enfin, à ma connaissance, je n'ai jamais vu de sketch de Gad Elmaleh qui incite au mépris, à la dégradation, qui soit problématique. Alors que finalement, il aborde énormément de sujets. Hein. La religion, beaucoup de sujets qui pourraient chatouiller, qui pourraient déranger, qui pourraient être mal perçus. Mais il a une manière. Et pour moi, c'est un art. Vraiment, pour moi, l'humoriste est un artiste. C'est-à-dire, il faut toujours. On se tient sur une crête extrêmement étroite entre ce qui va faire rire ou pas rire, comme un peintre avec ses pinceaux, s'il met un peu trop de rouge, bah le tableau ne sera pas réussi. Et là, c'est exactement pareil, ça demande beaucoup de finesse. C'est pour ça que, pour revenir à ce que disait Yael Gauze tout à l'heure, il y a les hommes politiques qui savent manier cet art, et puis il y a les autres qui sont un peu rustos. Et donc, ils n'y arrivent pas, et ça tombe à l'eau. Et le bide, il n'y a rien de pire que de faire un bide, on se ridiculise. Parce que là, on a essayé de faire le sympathique, mais ça tombe à côté, donc c'est terrible.
La prise de risque du stand-upper, on pourra en parler encore longtemps. Merci beaucoup Olivia Gazalet, je renvoie donc à votre livre philosophique intitulé « Le paradoxe du rire, et si ce n'était pas toujours drôle ?» C'est paru aux éditions Segers,
et Pocket.
Et Pocket, sur ce qui nous fait rire et moins rire. Vous écoutez Une semaine en France, à la technique, Selim Guéribi, Arnaud Caillet et Alex Olaré-Ouajou-Otinois.
Étonnez-moi, Benoît, marcher sur les mains, avaler des pommes de pin, Benoît, des abricots et des poires, et des lames de rasoir, étonnez-moi. Car de vous à moi. abeilles, Benoît. Faites-moi le grand soleil. Faites sonner le réveil et donnez-moi.
Étonnez-moi, Benoît, en 1970. C'était Françoise Hardy.
France Inter, le 18-20. Éric Delvaux.
La suite d'une semaine en France avec l'actualité en région, l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nous sommes en ligne avec les journalistes d'ici Roussillon, ici Loire-Océan, ici Saint-Étienne, Stéphanie Mora, Pascal Roche, Tiffany Antekoviak. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Dans les Pyrénées-Orientales, pour commencer, Stéphanie Moral, le Canigou, la montagne sacrée des Catalans, cherche une nouvelle notoriété.
Oui, un massif de 2784 mètres d'altitude qui règne en majesté sur la plaine du Roussillon, mais qui est assez méconnu finalement. Le département des Pyrénées-Orientales a eu beau faire passer la flamme olympique au sommet l'an dernier, inviter l'émission Échappée Belle de France 5 pour avoir de belles images, il manquait une dimension. Et c'est en voyant le moule d'un immeuble emblématique de la Grande Motte que la responsable de l'Office du tourisme de Prades a eu le déclic, créer un moule à gâteau qui reproduit les pics et les vallées du massif. Il y a deux ans, les équipes se sont lancées dans une modélisation en 3D de la mythique montagne. Il a fallu ensuite trouver un fabricant de moules en silicone en France et après 18 mois de travail, deux moules existent, en portions individuelles ou en format familial. Le résultat est hyper réaliste et quand le dessert est en plus saupoudré de sucre glace, vous avez la neige avec. Plusieurs restaurateurs catalans l'ont adopté, les particuliers se l'arrachent. L'Office du tourisme commercialise 400 moules à prix coûtant. Il faut débourser quand même 66 euros, ça n'a rien à voir avec le chiffre du département, ça, c'est le hasard total, pour cuisiner sa glace ou son gâteau en forme de canigou. Et comme le succès est au rendez-vous, eh bien Nadine Romieux veut maintenant travailler avec des chocolatiers pour mettre au point une sorte de bar Toblerone avec un alignement de sommets à croquer. L'Office du tourisme rêve de faire du massif du canigou un symbole de la gastronomie catalane comme la rousquille. Bon profit, comme on dit ici, bon appétit.
On en mangerait effectivement. Merci beaucoup Stéphanie Mora. Ici Loire-Océan, Pascal Roche, voilà un quatrième parc éolien marin qui va être mis en service à la fin de l'année. Il va s'ajouter à ceux de Saint-Nazaire, Saint-Brieuc et Fécamp. C'est un parc de 61 éoliennes qui est en cours de construction au large des îles Dieu et de Noirmoutier. Et il produit déjà de l'électricité depuis quelques jours.
Oui, la production est modeste pour l'instant, une vingtaine de mégawatts, car sur les 6 éoliennes installées, 3 seulement sont entrées en production. Mais la cadence s'accélère, 57 fondations sont posées sur les 61. Le chantier est impressionnant, on le voit d'ailleurs depuis les plages du Nord-Vendée et depuis les îles. On distingue un immense navire avec des sortes de jambes qui se plantent au fond de l'eau. Elles soulèvent le bateau au-dessus des vagues, car ce navire, le Vol-au-Vent, a besoin d'être stable. Il est équipé d'une grue capable de lever 1500 tonnes et c'est grâce à elle que les mâts, les nacelles et les pales sont assemblés les uns après les autres. Ces pièces sont acheminées depuis Saint-Nazaire par ce même bateau. Il va effectuer une quinzaine de rotations d'ici la fin du chantier, fin septembre. La base d'exploitation et de maintenance, elle, a été inaugurée ce matin même sur l'île Dieu, avec 66 emplois permanents à la clé. Une base de maintenance sur une île, c'est une première mondiale, figurez-vous, car ça représente un surcoût de 20%, mais c'était une condition imposée par les élus à l'opérateur Emin. Ce parc offshore, c'est une opération de 2,5 milliards d'euros et quand il tournera à plein régime, il fournira de l'électricité pour 800 000 habitants. C'est à peu près la population de la Vendée.
Pascal Roche, ici Loire-Océan. Nous partons à Saint-Étienne à présent. Plus précisément, dans la commune de Villars, Tiffany Antekoviak, pardon. Dans cette commune, l'école a installé des bancs dits de l'amitié. Trois de ces bancs sont très colorés. C'est un moyen tout bête finalement pour lutter contre l'isolement que vivent certains enfants à l'école.
Ouais, avec leurs lattes couleur arc-en-ciel, impossible de rater les bancs de l'amitié dans la cour des trois écoles élémentaires de Villars. Et c'est exactement le but recherché, la visibilité. Lorsque tu te sens seul ou que tu es triste, assieds-toi sur le banc de l'amitié et tes copains viendront te chercher pour jouer ou te consoler. C'est la phrase mode d'emploi qui accompagne chaque banc. Elle a été écrite par le conseil municipal des enfants de Villars qui a lancé le projet l'an dernier. Les enfants ont donc repeint d'anciens bancs communaux aux couleurs de l'arc-en-ciel en y ajoutant des symboles et des mots en lien avec la solidarité, amis et amour, par exemple.
Ouais, Tiffany, d'où vient cette idée des bancs de l'amitié ?
Des États-Unis. Le premier banc a été créé par Acacia Woodley en 2012 en Floride parce que Acacia, fillette de 10 ans qui est née avec une malformation des bras, n'arrive pas à ce moment-là à se faire des amis dans sa nouvelle école. Son idée est reprise dans de nombreuses écoles américaines, canadiennes et en France depuis 4-5 ans pour lutter contre l'isolement et le harcèlement. Les conseils municipaux des enfants sont souvent à la manœuvre comme à Villars. Les jeunes villardaires voient d'ailleurs plus loin que leur cours d'école puisqu'ils ont décidé d'envoyer deux bancs de l'amitié à leurs villes jumelles en Allemagne et en Espagne.
Tiffany Antkoviak, ici Saint-Étienne, l'actualité d'ici et d'ailleurs.